Jacqueline Fardel, bonjour.
Bonjour à tous.
Avec votre revue de presse internationale que vous avez parcourue ce matin. Et au sommaire de votre revue de presse?
Eh bien, la presse internationale qui fait les présentations ce matin. À la une du courrier de Kinshasa, on découvre le visage de Ramazani Shadary, le dauphin choisi par Joseph Kabila, titre le journal congolais. Ce sera lui, le candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle le 23 décembre prochain dans le pays. Avec la renonciation de Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, une partie de la crise politique congolaise vient de s'évaporer, écrit Alain Diasso, étant entendu que les opposants et la société civile soupçonnent de vouloir rempiler au mépris de la Constitution. Une fois de plus, continue le journaliste du courrier de Kinshasa, Joseph Kabila vient de déjouer les pronostics en jetant son dévolu sur une personnalité dont le nom était à peine cité comme virtuel dauphin. Un homme qui a gravi patiemment les échelons du pouvoir, mais dont la carrière n'est pas si lisse, rappelle Jeune Afrique. Le dauphin de Kabila, ancien ministre de l'Intérieur, baptisé ici Monsieur Coup sur Coup, figure sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne en 2017. Pointé du doigt notamment pour les répressions des marches anti-Kabila. C'est avec une plume trempée dans le sang des Congolais que s'est écrit en partie le pédigré de Ramazani Shadary, assure aujourd'hui au Faso pour le quotidien burkinabé. L'homme incarne la machine répressive du régime. Il ne reculera devant rien pour assurer sa victoire, disons la victoire de son maître, car il incarne les arcanes du pouvoir. Il jouera son rôle de Medvedev jusqu'au bout. Qu'à cela ne tienne, continue la Tribune Afrique, la surprise du chef, c'est lui. Joseph Kabila a tenu son engagement à ne pas se représenter, mais cette renonciation, poursuit le mensuel, envoie des signaux qui risquent de mettre en difficulté ses pairs qui règnent depuis des décennies dans les palais d'Afrique centrale. Joseph Kabila se ménage ainsi une sortie honorable, à bon compte, estime encore dans le mensuel un connaisseur de la RDC. Il préserve des acquis, une possibilité de revenir sous une forme plus astucieuse. Cette position pourrait s'avérer être un tour de passe-passe poutinien. Joseph Kabila semble donc avoir cédé à ce que réclame le peuple, à moins, conclut le journal, à moins que le jeu de chaises musicales ne soit son joker pour conserver le pouvoir, même dans l'ombre du palais.
La presse internationale qui ce matin annonce déjà les vainqueurs des élections de mi-mandat aux États-Unis à l'automne.
Rouge ou bleu, en tout cas, le gagnant évident de ce prochain rendez-vous électoral, annonce Newsweek, ce sont les femmes. Le magazine américain s'attend à une vague rose. Plus de candidats de femmes, candidates que jamais, se présenteront aux élections à mi-mandat en novembre, indique Newsweek. Après les primaires de mardi dans 4 États, il y a maintenant 11 femmes candidates au poste de gouverneur. Elles étaient 10 lors du précédent record en 1994. Et il y a également au moins 185 candidates à la Chambre des représentants. Cela pourrait être une année historique pour les femmes, estime Gretchen Whitmer, qui a remporté la primaire démocrate dans le Michigan. Parce que nous organisons nos foyers, nous organisons notre politique. Et l'histoire de cette élection ne se limite pas au nombre de femmes candidates, ajoute une autre représentante démocrate dans le magazine. Elle représente aussi la force de ces femmes, leur histoire et les expériences qu'elles vont mettre en place. Actuellement, seulement 6 femmes exercent les fonctions de gouverneur des États-Unis.
La presse internationale fait aussi le compte de tous les défis à relever pour le nouveau président colombien dont nous parlions à l'instant avec François-Xavier Frelan.
La corruption, la sécurité, l'économie, l'inégalité, la production de cocaïne en plein essor. Et ce n'est que pour commencer, liste le Financial Times. Pourtant, ce sont les autres défis qui sont plus susceptibles de définir la présidence d'Ivan Duque et le parcours de la plus ancienne démocratie d'Amérique latine, estime le journal économique américain. Et en premier lieu, le processus de paix avec le groupe de guérilla marxiste, les FARC. Ivan Duque est arrivé au pouvoir en partie en critiquant l'accord de paix qu'il a promis de changer. Le faire serait une grave erreur, estime le Financial Times. Au lieu de ça, le nouveau président devrait s'approprier le processus de paix, le mettre en œuvre, le financer correctement. Cela mènerait une plus grande paix dans l'arrière-pays colombien, disputé aujourd'hui par des bandes criminelles, des dissidents de la guérilla et d'anciens paramilitaires. Mais le temps veut croire que la Colombie inaugure, lentement et difficilement, une nouvelle ère. Une journaliste du quotidien suisse a pu suivre une expédition dans la jungle colombienne. Une de ces 20 expéditions scientifiques montées depuis 2 ans par le gouvernement colombien pour explorer des territoires inaccessibles avant la démobilisation des FARC. Le temps s'est enfoncé dans la forêt tropicale du Choco, un des endroits les plus humides de la planète. Sur tous ces chemins, raconte la journaliste, la paix a repris peu à peu ses droits, la population est revenue, il n'y a pas de barrage sur les routes. Ce qui est vrai ici, rappelle la journaliste, ne l'est pas forcément ailleurs, où les groupes armés se disputent le contrôle des routes, des trafics en tout genre. Mais pour l'heure, les botanistes continuent leur inventaire. Les expéditions ont permis pour l'instant de découvrir 163 nouvelles espèces de faune et de flore et d'identifier 133 espèces endémiques.